Qui d'entre vous a lu un livre dans le dernier mois ?
Je, tu, il aime les livres.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
24 heures autour du livre, toute la journée, jusqu'à 6 heures du matin.
Jusqu'à 6 heures du matin, bien oui, c'est le temps de la lecture ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question des 24 heures autour du livre de Philippe Ross, de tragédie, de narcissisme, de rite initiatique et même de trombone avec David Vann qui signe Dernier jour sur Terre et un roman, Goat Mountain, pour en finir avec son histoire familiale marquée par le suicide d'un père, à lire comme une tragédie américaine, Manu Farine.
Et une première non-fiction pour David Vann, soit le récit américain d'une tuerie de masse ou comment dénoncer une nation qui agirait comme une tragédie grecque, c'est-à-dire contre ses propres intérêts et se détruisant elle-même.
19h30, le plateau patrimoine. Et bien, ce soir, ça va pas très fort. Avec Josiane Savigno qui publie avec Philippe Ross, récit de 20 ans de conversation avec le romancier américain qui est entré dans le panthéon de ceux qu'elle admire, les égotistes, les mégalomanes, les tout-puissants qui croient en la force de leur fiction. Manu Farine.
Un exercice d'admiration donc pour un double portrait, celui de Philippe Ross et de son œuvre, et celui d'une lectrice et critique au travail.
Mais tout de suite, c'est l'actualité culturelle. Ce soir, une édition spéciale 24 heures autour du livre pour le supplément Week-end de Benoît Lagan, que l'on ouvre d'abord sur l'annonce exclusive et très officielle du prix Lire dans le noir du livre audio par Zoé Sfez. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est donc la 6e édition du prix Lire dans le noir.
Oui, le prix entièrement dédié au livre audio. Il est organisé donc par l'association du même nom, en partenariat notamment avec France Culture et France Info. Cette année, c'est Michel Villermoz de la Comédie Française qui était le parrain. Ce prix récompense 4 livres audio dans 4 catégories. C'est donc La promesse de l'aube de Romain Gary, lu par Hervé Pierre de la Comédie Française, paru chez Gallimard, Écoutez lire, qui l'emporte dans la catégorie classique. Dans la catégorie document, le lauréat est L'évolution. Récit de la théorie de l'évolution, écrit et lu par Pierre-Henri Goyon, paru chez De Vive Voix. Le prix dans la catégorie jeunesse récompense Albe, l'autre moitié, de Siegfried Bafer, un très joli conte sur l'univers de la musique yiddish dans les Balkans, lu par l'actrice Elsa Silberstein, que nous avons reçue il n'y a pas longtemps, aux éditions des Braques. Et enfin, dans la catégorie nouveauté, le lauréat, c'est le roman Mapuche de Caril Ferrel, consacré à ce peuple autochtone pris dans la tourmente de la grande histoire de l'Argentine.
Un texte lu par le comédien Féodor Atkin. C'était son premier livre audio.
C'était son premier livre audio, un exercice extrêmement complexe et à la fois extrêmement stimulant, selon lui. Écoutez-le.
Ce que je trouve assez formidable dans cette histoire, c'est le principe d'enfermement. C'est-à-dire que je me retrouve seul dans un studio d'enregistrement, totalement calfeutré, à me battre avec les mots, à me colter avec un livre, avec un auteur, avec une pensée, avec un... Et ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que c'est râpeux. C'est-à-dire que chaque phrase emporte avec elle une pensée. Cette pensée-là, il faut savoir la décrypter. Il faut en connaître les arcanes, non seulement depuis le début, mais les implications avec celles qui suivent et celles qui précèdent. Parfois, on a des spirales d'angoisse, tout simplement, parce qu'on se dit, mais je suis en train de raconter quelque chose, je ne sais pas ce que je dis. Et on s'arrête, on reprend au début de la phrase, ou au début du mot, au début du paragraphe. D'un seul coup, on trouve cette espèce d'accomplissement qui permet la fluidité. C'est une épreuve, donc c'est un pari très osé, assez fort et qui, moi, m'enchante.
C'est très bizarre d'entendre la voix de Dr House, puisque c'est Féodor Atkin que l'on entend. Ces prix ont été choisis par un jury animé par Aurélie Kiefer, composé de journalistes, d'auteurs, d'éditeurs et de libraires.
Et notamment de Catherine Huberti, conteuse et qui tient la compagnie du Chat Noir. C'est l'une des 3 librairies sonores de France. Elle est à Clermont-Ferrand. Alors je lui ai demandé à elle, qui les connaît si bien, ce qui fait la qualité d'un livre sonore. Écoutez-la.
La qualité d'un livre audio, je dirais que c'est avant tout la voix qui lit. Alors, entendons-nous bien. Une voix ne va pas rendre un mauvais livre meilleur qu'il ne l'est, mais il va l'arranger un petit peu. En revanche, la voix est là pour magnifier le livre, pour donner à entendre la musique du texte, les silences du texte aussi. Un bon lecteur, de toute façon, doit servir le texte en restant en deçà du texte. Il doit rester humble par rapport au texte. Il ne doit pas passer avant le texte.
Le livre sonore existe depuis des dizaines d'années, mais son public se renouvelle depuis quelques temps.
Effectivement, c'est ce que dit Catherine Huberti. Je lui ai demandé qui étaient ses clients, et vous allez le voir, le livre audio peut être un moyen de se réconcilier avec la littérature.
C'est avant tout un public de gens cultivés, de gros lecteurs. Après, on a quelques personnes qui entrent comme ça en nous disant « bah voilà, je suis fâchée avec la littérature ». Souvent depuis le lycée, quand on demande quel est l'auteur qui les a fâchés avec la littérature, à tous les coups on gagne, c'est Balzac. Alors les gens, quand c'est comme ça, veulent essayer de renouer avec la littérature. Là, il faut y aller doucement. Moi, je ne les mets pas dans Proust directement. Parce qu'une oreille, ça se forme. Puis on les voit revenir. Quand on y a goûté, je crois qu'on y revient.
Voilà, le livre audio, selon Catherine Huberti, ça peut être aussi un très bon moyen d'entrer dans la littérature, pour les adolescents notamment. Donc pensez-y. Et n'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil sur le site de l'association Lire dans le Noir, qui organise beaucoup d'événements et d'initiatives pour aider le livre sonore à conquérir un plus large public.
Peut-être un commentaire de la part du romancier américain David Vann sur le livre audio.
We do have audiobooks quite a bit in the US,
and I've been very lucky here in France. En France, j'ai pas mal de chance parce qu'il y a des audiolivres, mais j'ai une terrible expérience au Royaume-Uni. Sur Radio 4, il y a une version de mon livre Désolation qui a été lue par un comédien américain. Voilà, ça donnait ça. Et il a lu tout mon livre comme ça. Donc tout le monde en Angleterre pense que mon livre, eh ben c'est ça. Et que ma voix, c'est ça. Une anti-publicité désastreuse pour moi.
Josiane Savigno, peut-être un commentaire ?
Oui, moi je ne suis pas très fan de livres audio, mais non pas que je trouve ça mauvais, mais j'ai beaucoup d'amis qui écoutent par exemple des livres audio dans leur voiture. Moi je préfère écouter de la musique, je dois avouer, ou la radio, parce que j'aime beaucoup la radio. Je suis très fan de radio.
Vous êtes bien aimable. On continue tout de suite, et bien ça sera les brèves. Le journal de la culture avec un supplément week-end, spécial livre. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour ouvrir ce supplément, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et à l'occasion de ces 24 heures chrono autour du livre, sur France Culture, j'ai décidé de m'arrêter sur la place des écrivains dans les séries télévisées. Et pour en parler, je suis allé à la rencontre de Neil Sehal, qui est un éminent spécialiste du genre, journaliste et critique pour Le Monde des Livres, mais encore Art Press. Il est par ailleurs le co-auteur de l'excellent dictionnaire des séries télé, paru chez Philippe Rey, éditeur, et dont on entend l'an prochain une édition complétée.
Alors, quelles sont les questions que vous lui avez posées ?
Eh bien, ma première question, au fameux chroniqueur littéraire et sériephile, a été de savoir quelle place on accordait dans les séries à l'écrivain, non pas en tant qu'auteur ou scénariste, mais en tant que personnage fictif. Bref, est-ce qu'on croise souvent des personnages d'écrivains dans les séries télévisées américaines ? Voici ce qu'il me répond, Neil Sehal.
Il apparaît finalement assez souvent par rapport à d'autres personnages. Par exemple, par rapport à un proctologue, il y a beaucoup plus d'écrivains dans les séries télé que de proctologues. Après, il y a un ou deux personnages très archétypaux. Et en fait, le plus simple et le plus évident, c'est le personnage qui intervient dans les séries policières. C'est l'écrivain de romans policiers qui se met lui-même à enquêter. C'est le cas, par exemple, dans Castle, pour prendre la série la plus récente et la plus populaire. Et c'est parfaitement archétypal. Et ça revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que l'écrivain a une vision, lui, de l'enchaînement des événements et du récit. C'est une sorte de professionnel de l'intrication ou de l'intrigue et qui permet justement d'avoir une autre vision d'une enquête. La série télé fonctionne quand même beaucoup sur les caricatures, donc le personnage principal d'écrivain le plus caricatural, c'est celui de Californication par exemple, où là il est tout à fait dans l'excès, et ce qui est remarquable finalement, c'est qu'il est tellement devenu sa caricature qu'il n'écrit plus dans Californication, et que tout le problème et tout le ressort de l'intrigue d'une certaine manière est là, c'est qu'est-ce que fait un écrivain quand il n'écrit pas ? Ben, il est encore plus écrivain que les autres, c'est-à-dire il fait encore plus n'importe quoi. C'est un adolescent en fait.
Alors profitant du brillant esprit de synthèse de Neil Sehal, je lui ai donc demandé dans un second temps à quoi pouvait bien servir l'objet livre dans les séries télé américaines. Voici sa réponse.
Dans la série américaine, en fait, le livre remplit deux ou trois fonctions principales. La première, c'est de remplir une fonction qui est celle du savoir. En général, le livre est le livre qui indique le savoir. Dans la série fantastique, ce savoir se double en général d'un pouvoir, pour aller très vite. Mais surtout, le livre est présent, en fait, de manière beaucoup plus indirecte dans la référence. Aussi parce que l'histoire de la série télé américaine est beaucoup celle d'écrivains qui avaient besoin de sous et qui, au lieu de bosser pour le cinéma, ont bossé pour la télé et parfois, surtout, ont bossé pour les deux, en fait, parce que c'était les mêmes studios, les mêmes équipes, aussi les mêmes scénaristes et les mêmes écrivains. Et du coup, on retrouve dans certaines séries télévisées une présence parfois diffuse à l'écran et assez légère du livre, par contre extrêmement profonde dans les scénarios, dans les systèmes de référence, dans les allusions. Et là, la série qui, moi, ces dernières années, me semble la plus emblématique de ce genre de travail, de la série comme papier peint en fait, c'est Lost. Où dans Lost, vous avez non seulement du livre à l'écran, parce que quelques livres sont tombés de l'avion sur la plage, mais on voit par exemple Sawyer qui lit un certain nombre de livres, mais les personnages eux-mêmes portent des noms littéraires, que ce soit Sawyer justement, que ce soit Locke, que ce soit plein d'autres. Et il y a tout un tas de références aussi par rapport à l'île déserte, par rapport au monde perdu, par rapport, qui sont en fait un travail de référentialité littéraire, de jeu littéraire aussi très souvent, d'allusion, d'ironie que perçoit ou non le téléspectateur, et où on voit vraiment une culture.
Alors pour ceux qui veulent se faire leur propre opinion, la série Lost est disponible en intégralité en DVD et les aventures de l'écrivain Richard Castle, sorte d'arabesque des années 2000, c'est tous les lundis gratuitement sur France 2 en première partie de soirée.
David Venn, je crois que vous voulez aussi intervenir sur cette question de l'écrivain dans les séries.
Quand je vois des écrivains dans une série télé, je n'y crois pas. Ce sont des caricatures, en effet.
Oui.
Aucun de ces écrivains ne ressemble aux écrivains que je connais. Je n'ai jamais reconnu un écrivain là-dedans. Et tout à coup, si on les publie, on les retrouve tout à coup dans un château magnifique et tout. Mais quand on publie un livre dans la vraie vie, on ne devient pas millionnaire instantanément.
Ça dépend. Ça peut arriver. Josiane Savigno.
Mais je regarde de temps en temps Castle, c'est vrai. Mais je partage un peu l'avis de David Venn, il me paraît pas très réel et puis il est un peu lourd, c'est pas l'écrivain le plus subtil que j'ai rencontré dans ma vie.
Alors on va terminer tout de suite avec votre petite revue de presse de la semaine, Benoît, et on commence par dimanche.
Et dimanche, c'était la confirmation d'une quatrième manche pour le blockbuster littéraire de ces 10 dernières années. En effet, mardi, Libération nous apprenait que lundi, les Suédois se disputaient encore autour de l'annonce officielle du prolongement de la série littéraire Millennium. En effet, dans Babel, une émission littéraire, dimanche soir, l'écrivain David Lagercrantz a confirmé qu'il était l'auteur de la suite du célèbre polar à paraître en août 2015. Une suite qui fait débat en Suède. Plusieurs auteurs de polar dénoncent la saloperie, la honte d'un éditeur et d'un auteur qui s'autorise, je cite, à danser sur la tombe de Stieg Larsson.
Mercredi, c'était Manuscrit.
Oui, mercredi, Libération nous relatait l'histoire des archives personnelles de l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez que l'Université du Texas à Austin vient d'acquérir. Les héritiers de Garcia Marquez ont donc vendu de nombreux documents tels qu'une dizaine de manuscrits originaux, mais aussi le brouillon d'un roman inachevé, celui de son discours de réception du prix Nobel en 1982, ainsi que de nombreuses lettres dont celle envoyée par Graham Greene.
Et puis jeudi, eh bien c'était inédit.
En bref, dans les pages culturelles du Figaro, on apprenait jeudi qu'une lettre inédite de Camus à Sartre avait été retrouvée chez un collectionneur d'autographes. Cette lettre confirme donc que jusqu'en 1952, les deux écrivains entretenaient d'excellentes relations. Vendue la semaine dernière dans cette lettre, Camus termine en écrivant simplement, je cite, « Je vous serre la main ».
On ne peut plus être plus cordial.
Voilà.
Et aujourd'hui ?
Eh bien, pour terminer, une toute petite information, Laurent, qui sera peut-être un détail pour vous, mais qui, pour moi, veut dire beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, à la même époque, en clin d'œil à l'ouverture du Salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil, j'avais lu en direct à ma fille son livre préféré.
Et ça ne va pas recommencer. Votre fille a grandi, elle n'en peut plus.
Voilà, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, je n'ai plus besoin d'utiliser les ondes nationales pour faire la lecture à ma fille. Car c'est l'info du jour. Ma fille peut enfin découvrir le plaisir de la lecture toute seule.
Elle sait lire ?
Oui, les écrivains viennent donc de gagner une nouvelle lectrice, la preuve par l'exercice.
Oh non.
Manu est un garçon et Alori est une fille.
Tout est bien dit.
Ça commence bien.
Ça commence très très bien, les questions de genre.
Dans quelques années, on pourra lire David Venn.
Exactement. Des réactions à ce que l'on vient d'entendre dans ces informations, Jeanne Savigno ?
La lettre de Camus à Sartre, puisqu'on a plaisir maintenant à les opposer de manière si radicale et parfois à profiter du fait qu'on encense Camus pour cracher sur Sartre. Je trouve très bien de rappeler que c'était plus compliqué que ça.
David Venn et Jeanne Savigno, on va parler dans quelques instants de littérature américaine et pourquoi pas française d'ailleurs. Jeanne Savigno, quels ont été les premiers auteurs américains que vous ayez lus ? Parce que Ross va arriver beaucoup plus tard dans votre parcours.
Oui, je pense que comme un peu tout le monde, quoi, Hemingway, Faulkner. Après, les choses que j'ai plutôt découvertes, c'est toute seule, pas de manière, j'allais dire, scolaire. C'était Flannery O'Connor que j'aime beaucoup et Carson McCullers.
Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette littérature-là, justement, vous-même, de vous-même ?
Bah, chez Flannery O'Connor, c'est quand même une réflexion très, très intérieure. Chez Carson McCullers, je crois que c'était cette manière de refuser. Enfin, je pense que le cœur est un chasseur solitaire, a un petit club de lecteurs qui se renouvelle à chaque génération. C'est un livre pour adolescents sur le moment de comment résister au désespoir de l'adolescence, comment tenir, comment se révolter. Et Faulkner, évidemment, ça m'a paru au début difficile. Mais ensuite, je suis entrée dans cette folie de ce conte imaginaire qu'il a créé et dans sa manière de travailler la langue. Je crois qu'il a été très, très bien traduit en français par Maurice Edgar Coindreau, qui quand même l'a fait découvrir aux Français, alors que les Américains n'étaient pas absolument fanatiques de lui.
David Venn, vous, quelle est la littérature qui vous a formé ?
Flannery O'Connor, on vient d'en parler. Flannery O'Connor, c'est l'une de mes plus grandes influences dans le domaine de l'écriture des nouvelles. Mais le seul problème, c'est que c'est une école de méchanceté. On apprend à connaître les gens de par leur travers et leur méchanceté. Catherine Anne Porter, Faulkner et tous ces écrivains du sud des États-Unis. Et les gens sont monstrueux et sont des barbares, en fait. Et au bout du compte, j'ai lu Marilyn Robinson et la poésie d'Elizabeth Bishop. Et là, j'ai entendu une voix plus généreuse. Et je me suis rendu compte que, oui, on peut apprendre à connaître les gens, mais pas seulement par leurs mauvais travers. Mais Flannery O'Connor, c'est un très bon départ pour commencer à lire.
David Venn, quelle est la littérature américaine qu'il faut défendre aujourd'hui, selon vous, vous qui avez eu des mots très durs récemment sur la littérature new-yorkaise et notamment la figure de Jonathan Franzen?
I do think that our entire publishing industry is in New York.
Le secteur de l'édition américaine se trouve à New York, alors qu'il y a de la littérature en dehors de cette zone géographique, et la littérature, ça va au-delà du roman urbain. Pour moi, la meilleure tradition littéraire, elle est rurale et régionale, et on y dépeint les paysages régionaux. Ça devient une forme de l'inconscient, ça représente de manière indirecte la vie intérieure des personnages. Et il y a de nombreux écrivains, Cormac McCarthy et d'autres écrivains du Sud, des écrivains de différentes régions américaines. Et parfois, on a tendance à l'oublier, cela. Parfois, il y a des écrivains qui voient la gloire alors qu'ils n'ont écrit que des romans urbains. Jonathan Franzen, il est sur la couverture de Time, grand romancier américain. C'est ridicule. Il y a des centaines d'autres contemporains qui auraient dû être sur cette couverture avant lui. Et les gens, ils ont choisi Jonathan Safran Foer. Ce n'est pas l'un des meilleurs écrivains de sa génération, comme il est clamé à tue-tête.
Josène Savigno.
Oh, mais ça me fait un plaisir fou d'entendre ça, parce que je ne comprends pas cet engouement pour Jonathan Franzen, que je trouve absolument ennuyeux, et encore plus ennuyeux dans son deuxième livre que dans le premier, Les Corrections. Et ce côté, exactement ce que dit David Venn, il y a des gens très intéressants, il a nommé Annie Proulx, qui est quelqu'un qui n'est pas assez connu en France et qui est un écrivain merveilleux. Cormac McCarthy est mieux connu en France. Mais tout d'un coup, cet engouement pour Jonathan Franzen, considéré en effet comme le grand romancier américain, on lui met des noms derrière lui, ce serait le nouveau Philip Roth, et c'est aussi beau que Pastorale américaine, comme Pastorale américaine est le livre de Roth que j'aime le moins, évidemment. Ce n'est pas pour me déplaire.
D'ailleurs, vous parlez de Ross, on va parler dans quelques instants du livre que vous lui consacrez. Ross, dans ce livre, parle de ses admirations françaises. Il parle de Colette. Enfin, il dit qu'il aime Colette, qu'il aime Flaubert, Jean Genet, Mauriac, Céline, mais sans donner plus de détails. Vous, David Venn, quels seraient vos liens avec la littérature française, s'il y en a ?
Well, I teach non-fiction as well as fiction.
J'enseigne l'écriture littéraire, aussi bien la fiction que non. Montaigne, ses essais sont fondamentaux pour l'épanouissement de l'écriture de l'essai, dont le sujet est l'auteur. Donc je me prends comme sujet de ce que j'écris. Montaigne est formidable de ce point de vue-là, et c'est ce que j'enseigne. Et je me dis que tout ce qui est non-fiction, ça vous montre le cœur de l'auteur. C'est le but d'ailleurs, et cela, ça m'a beaucoup influencé. Parce que ça dure, et c'est ce que j'enseigne moi quand j'enseigne autre chose que la littérature de fiction.
Le rendez-vous, Broyles. A day after five students were killed and more than a dozen others injured by a lone gunman at Northern Illinois University, campus officials say the 27-year-old gunman, Stephen Kazmierczak, who killed himself during the shooting spree, was a former student at the school.
Plateau Magnum 300 avec vous, David Van, écrivain américain, prix Médicis étranger 2010 avec Second Island. Et vous publiez en France actuellement deux livres, Goat Mountain et Dernier jour sur Terre chez Goldmaster. D'abord, quelques mots sur ce que l'on vient d'entendre en ouverture du plateau. C'est un flash info qui fait état de la tuerie du 14 février 2008 à la Northern Illinois University. Steve a 27 ans. Il ouvre le feu apparemment sans motif apparent. Il abat 5 personnes, en blesse 18 avant de se donner la mort. C'est à ce fait divers que vous consacrez votre récit Dernier jour sur Terre sous la forme d'une enquête détaillée qui va retracer le parcours de ce garçon jusqu'à la tragédie finale. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce 14 février 2008 et de la façon dont vous avez reçu cet événement ?
Ce jour-là, je partais à la voile. J'avais construit moi-même ce voilier et j'étais dans la baie de San Francisco sous le pont du Golden Gate. Je voulais aller en solo, en solitaire, faire le tour du monde. Et je devais devenir célèbre. Malheureusement, en raison de lui, eh bien, les reporters sont allés dans l'Illinois plutôt que de s'intéresser à mon voyage en solitaire. Évidemment, j'ai appris cette nouvelle le lendemain parce que j'étais en mer.
Manu Farine.
Ce récit, David Van, vous l'avez construit comme une sorte de mise en regard entre le parcours donc, de ce jeune tueur et le vôtre. C'est-à-dire que vous ouvrez et fermez le récit sur votre propre histoire, hein, sur votre enfance, le suicide de votre père alors que vous aviez 13 ans, la collection d'armes qu'il vous a laissées, votre propre errance d'adolescent, votre passion des armes, voire vos propres envies de tuer. Pourquoi lui, Steve, ce garçon, est passé à l'acte et pourquoi pas vous ? Ça, c'est aussi l'objet de ce récit. Est-ce que le fait d'écrire ce récit vous a donné une réponse ?
En écrivant ce livre sur ce tueur et en ayant écrit sur mon père qui s'est suicidé avec une arme à feu, je peux rendre ces suicides possibles. Ainsi, on peut comprendre comment cela a pu se produire. Mais je ne peux pas retirer le caractère inévitable de ça. Ils auraient pu choisir de ne pas commettre cela. S'agissant de ce tueur, Steve, il était dans sa voiture. Il a attendu jusqu'à trop tard. Quelques minutes plus tard, eh bien, la classe serait partie. Donc, il avait envisagé de ne pas le faire. Et en fait, au cours des 5 dernières années de sa vie, il était en train de se reconstruire. Il essaye de ne pas devenir un tueur. C'est presque un triomphe, l'histoire de ce Steve. Il a presque réussi à se reconstruire pour ne pas devenir tueur. C'est ça, sa vraie histoire. Au début, il a été formé pour devenir tueur. Il a mené une adolescence terrible, mais il a tout fait pour ne pas le devenir.
Alors la question, pourquoi pas moi, je ne suis pas devenu ce tueur, vous répondez notamment par des rencontres. Et j'ai pu lire dans un entretien que c'était notamment un groupe de théâtre au lycée qui vous a sauvé. Qu'est-ce que cette expérience de théâtre vous a enseigné, David Van ?
Pendant 3 ans, j'ai expliqué à tout le monde que mon père était mort du cancer. J'avais tellement honte que je ne pouvais pas dire qu'il s'était suicidé. Après s'être tué avec une arme à feu, eh bien, c'est moi qui ai hérité de toutes ces armes à feu. La famille trouvait que c'était une bonne idée. Donc j'avais un fusil avec lequel je visais les voisins et je tirais sur les lampes des réverbères dans la rue. En fait, c'était un fusil pour tuer les ours. Et le point tournant, c'était une audition pour une pièce de théâtre. Et j'ai dû raconter la vraie histoire à ce moment-là. Et l'art, ça a un pouvoir de transformation formidable. Vous pouvez prendre ces histoires aussi laides soient-ils, tout en racontant votre histoire et transformer les choses en autre chose, que ce soit le théâtre ou l'écriture, eh bien, on pouvait transformer la réalité. Steve n'a jamais eu cette possibilité. Steve a été formé par les militaires, par l'armée américaine, et il a été formé pour tuer, pour tirer, dans le cadre d'une réaction sans formation psychologique. Et puis, il a grandi dans un environnement de droite. Il a été élevé à la Nietzsche, si vous voulez. Il prenait des drogues, des cocktails très mal maîtrisés. Il a eu des effets secondaires. Il a été séparé de ses amis, de sa famille. Il était sexuellement un petit peu en déroute. Il fréquentait des prostituées. Il prenait du Prozac. Il avait arrêté le Prozac depuis 15 jours lorsqu'il a commis la tuerie. Donc, dans sa vie, il y avait tous les ingrédients qui ont mené vers ce meurtre de masse. Et c'est typiquement américain. Nous construisons des tueurs aux États-Unis. Il y a les militaires, la politique de droite, tous les ingrédients sont réunis pour construire aux États-Unis des tueurs de masse comme Steve.
Josiane Savigno, je sais que vous avez lu ce texte qui est un pas de côté dans la littérature de David Vann puisque c'est le premier texte non-fiction. Comment vous l'avez compris? Qu'est-ce qui vous a marqué à cette lecture?
Moi, je trouve que tout le monde devrait lire ce livre. D'ailleurs, il est en poche, donc il n'est pas très cher. Je trouve que c'est un livre tout à fait fondamental pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il combat l'idée que ces gens qui font des actes tragiques, dramatiques, etc., enfin, odieux, seraient des monstres. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des gens qui, pour les raisons que David Vann vient d'essayer d'expliquer, à un moment basculent, et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on va basculer ou pas. Et comme il le dit lui-même, en faisant intervenir sa propre expérience et le suicide de son père, et c'est le fait qu'il ait aussi eu, lui, des armes à feu et qu'il ait pu rêver de tuer, qu'est-ce qui fait que on reste dans la société ou que tout d'un coup, on transgresse, on bascule et on devient ce tueur. Donc, il y a tout cet aspect dans son livre. Il y a aussi le fait, comme il vient de le dire, comment la société américaine construit des tueurs par tout un tas de choses, l'armée et autres maniements des armes à feu dans le quotidien. Et enfin, il y a cette idée terrible qu'au fond, cet homme a tué pour se suicider, que ça a été son ultime suicide.
Qu'est-ce que le fait d'écrire de la non-fiction a changé dans votre propre littérature, David Vann? Qu'est-ce que ça a mis en place?
Non-fiction is completely different.
La non-fiction, l'essai, c'est radicalement différent de la fiction, particulièrement à propos de ce livre, parce que ça a été un effet très fort. J'ai pu accéder à 1500 pages des archives de la police et j'ai eu plus d'informations que quiconque sur ce dossier. Et le défi que je me suis livré, c'est de rassembler toutes les informations, donc ses archives médicales, militaires, ses courriels. Et j'ai essayé de constituer des archives pour essayer d'en tirer un récit, sans pour autant changer les choses, sans rien altérer. Je voulais découvrir et révéler qui était Steve et ne pas faire de lui quelqu'un d'autre. Les versions les plus connues de tueries aux États-Unis reposent sur des mensonges. Il y a Columbine de Dave Collins. Ça, c'est un livre qui fait un héros du proviseur. Donc le lecteur peut se dire, ah bon, il y a une tuerie, mais nous sommes des héros américains malgré tout. Mais c'est des foutaises. Il n'y a pas de héros dans ces histoires-là. Il y a des tueries les unes après les autres et on ne fait rien pour y mettre fin. On n'a pas de héros. Autre version aimée par les Américains, c'est We need to talk about Kevin. Nous devons parler de Kevin, Lionel Shriver. On dit que le garçon est né démon et il ne nous implique pas, il ne dit rien sur nous et c'est un peu comme un arc et une flèche. Donc ça nie l'importance néfaste des armes à feu. Donc moi je relate mon expérience à côté de celle-ci parce que je ne veux pas que ce soit un monstre. Il faut qu'il soit proche de nous parce qu'il est proche de nous, il est comme nous en quelque sorte. Et les tueurs renvoient tous les aspects de la société américaine et tous les membres de la société américaine pourraient être des tueurs en quelque sorte. C'est le déni aux États-Unis qui m'exaspère le plus.
Manu Farine.
Vous avez dit, David Vann, vous avez travaillé avec une masse de matériaux, hein, de documents, et pourtant vous n'avez jamais écrit aussi rapidement. Hein, ce récit a été écrit très vite. Qu'est-ce qui exigeait une telle vitesse d'écriture?
Je devais écrire 80 pages en 6 jours pour le magazine Esquire. Il m'avait fixé cette date, donc il fallait respecter la date de bouclage. Ils m'ont pratiquement égorgé, ces gens-là. C'était encore plus dangereux que tout. Après cela, j'ai écrit le reste du livre en l'espace de 5 ou 6 semaines parce que je voulais que ça me sorte de l'esprit. C'était l'expérience la plus sombre que j'ai jamais vécue, passer tout ce temps dans ces archives et aux côtés des amis et des enseignants de Steve à réfléchir à cette histoire. Il est devenu une partie de ma vie. Et quand je me balade, je vois encore des choses que Steve aimait. Je me dis, ah, Steve aimait ça. Et puis je le dis à quelqu'un qui est avec moi, comme si Steve était un de mes copains. Il est devenu beaucoup trop proche de moi, ce Steve. J'aurais voulu ne pas écrire cet essai et je n'écrirai jamais un essai comme ça. Je ne m'intéresse pas à tes tueurs, mais mon agent a dit que c'est une bonne idée. Il a dit, ah, ce type Steve, il est comme toi, David. Excellent élève, mais il a un passé très étrange avec les armes à feu, un peu comme toi, David. Tu devrais écrire sur lui.
La dernière fois que vous avez tenu une arme à feu, c'était dans quel cadre?
Oh, it's been so long.
Ah, ça remonte quand même.
I haven't hunted or shot since
la
I was 13 years old.
J'ai abandonné à l'âge de 13 ans. Les armes à feu n'apportent aucune sécurité. Et l'armée américaine ne donne aucune sécurité au reste du monde. Et l'armée américaine ne fait rien dans l'intérêt du reste du monde. Donc moi, je suis contre les armes et je suis contre les agissements de l'armée américaine à l'étranger.
Parallèlement à ce récit, on peut lire en français un roman, Goat Mountain. Le narrateur revient sur une partie de chasse, vous en parlez à l'instant, dans le nord de la Californie à laquelle il a participé avec son père, son grand-père et un ami. L'enfant a 11 ans et il doit y tuer son premier animal. Mais ce n'est pas un cerf qu'il va abattre ce jour-là, c'est un braconnier. Cet événement va bien sûr déclencher un enchaînement de tragédies sur fond de paysages, de forêts, de rivières et de montagnes. Un récit initiatique, vous-même vous y avez eu droit. Vous avez reçu à 8 ans votre premier fusil de chasse. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette scène inaugurale de chasse et de mise à mort, David Vann ?
Dans
la réalité, c'est vrai que j'ai tué mon premier cerf à l'âge de 11 ans en Californie. Il a fallu que je mange le cœur et le foie. C'était un rite initiatique qui devait faire de moi un homme. C'était un petit peu comme si je devais tuer un homme. C'était ça, en réalité, le véritable rite. Mais bon, le cerf, c'est ce qui ressemble le plus à ce qui pourrait être un homme de par sa taille. Et donc, c'était tout à fait ritualisé de la façon dont il fallait s'y prendre. Le premier chapitre de Goat Mountain décrit le garçon qui vise le braconnier. Et ça, on a vécu cela de nombreuses fois avec le fusil prêt à tirer, avec la balle et la détente prête à être déclenchée. Et c'est ce qui se passe. Et évidemment, cela a créé une série de problèmes, comme vous l'avez dit.
Manu Farine.
De ce roman, hein, de Goat Mountain, David Vann, vous dites que c'est le dernier à exorciser le tragique de votre histoire familiale. Hein, c'est le quatrième roman. Est-ce que c'est l'écriture de ce roman qui a permis ça, qui a dénoué ça, ou est-ce qu'au fond, le livre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Dernier jour sur Terre, ce récit, cette non-fiction, est-ce que c'est ça qui a permis de mettre le point final à l'écriture de la tragédie familiale ?
Donc,
quatre romans et trois essais. Donc, j'ai écrit sept livres au total et il est à chaque fois question de ma famille et des problèmes de ma famille. Ces sept livres, j'en fais un feu de joie. Et feu de joie est qui me permet de mettre ma famille derrière moi. Quel soulagement! C'est lorsque j'ai terminé l'écriture de Goat Mountain, le dernier livre, que j'ai eu l'impression d'avoir fini, que je n'aurais plus rien à faire de la vie. Mais depuis lors, j'ai écrit trois romans qui n'ont rien à voir avec ma famille.
Il y a d'autres références dans ce roman, David Vann. Notamment, vous y intégrez l'histoire de Caïn, l'histoire de Sainte Trinité, des références bibliques. Qu'est-ce que vous permettez toutes ces références dans ce dernier roman ?
Vous savez, c'est mon inconscient qui écrit. Moi, je n'ai pas de plan, pas de projet. Je ne sais pas quels seront les thèmes que j'évoquerai. J'étais très surpris de voir la Sainte Trinité apparaître dans mon livre. Je n'avais aucune idée que ce serait le cas. Le braconnier mort, devenant Jésus, je n'y avais pas pensé. Ou alors, l'animal qu'on ne peut pas annihiler devient en fait le Saint-Esprit, ou que le grand-père deviendrait un dieu de l'Ancien Testament, très effrayant. Je n'avais pas du tout envisagé cela. Et c'est ça qui est passionnant dans l'écriture chez moi. Et c'est pour ça que j'écris. Il y a toutes ces configurations dans l'inconscient. Moi, j'ai grandi dans une culture chrétienne et il y a en moi la Bible, que je le veuille ou non. Quand je pense à tuer, il faut que je pense à Caïn. Et Caïn, et c'est vraisemblablement le récit originel. Toutes les histoires en découlent parce que dans la tragédie et dans la religion, nous essayons de comprendre ce qu'il y a de mal en nous. Pourquoi nous sommes capables de cela ? Comment le garçon peut-il tuer ? C'est extrêmement troublant tout ça.
Alors, comme chaque jour depuis la rentrée, on demande à nos invités de nous apporter un son qui les a marqués. Et voici ce que vous avez choisi, David Vann.
I'm
par rapport à tout ce que l'on a pu entendre auparavant. Identification de ce son, David Vann, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Well, I was asked to pick anything.
On m'avait demandé de choisir ce que je voulais.
I love that song.
J'adore ce morceau. Ça me rend joyeux parce que je jouais des congas dans un groupe de funk à une époque. Je portais une sorte de cache-sexe. J'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses et je jouais des congas attachés à la taille et je jouais des percus. Et le funk, c'est génial pour les percus, pour danser. Et maintenant, je mène une chouette vie. J'écris des tragédies, certes, mais j'ai voulu tout expier, me débarrasser de tout. Et maintenant, tout va bien. Merci.
Eh bien, on va changer tout de suite de registre, mais il y a quand même des points communs. Tout de suite.
Le rendez-vous.
Do you feel like there's a God out there?
I'm afraid there isn't, no.
You know that telling the whole world that you don't believe in God is going to say, you know, have people say, oh my goodness, you know, that's a terrible thing for him to say.
When the whole world doesn't believe in God, it'll be a great place.
Plateau Trombone avec vous, Josiane Savigno, journaliste française, longtemps critique littéraire et rédactrice en chef de son supplément hebdo Le Monde des Livres. Vous publiez aujourd'hui avec Philippe Ross chez Gallimard, soit le récit d'un dialogue que vous avez mené avec lui pendant près de 20 ans. On vient d'ouvrir ce plateau sur la voix de Philippe Ross que vous aviez demandé à entendre. Qu'est-ce qu'elle dit de lui ?
Moi, j'aime beaucoup sa voix. Il a une voix très, très posée, assez souvent ironique. Là, on ne le voyait pas trop. Enfin, ici, il y avait quand même de l'ironie sur « quand plus personne croira en Dieu, ça ira mieux sur Terre ». Et j'aime beaucoup sa voix. Je la trouve assez douce par rapport au personnage qu'on en a fait souvent, de quelqu'un d'un peu raide, d'un peu sec.
Qui peut être aussi.
Qui peut être aussi. Ma première rencontre n'était pas absolument de rêve, mais ça s'est arrangé depuis. En fait, ce livre, c'est une histoire étrange. On a fait, vous savez, au Monde, un hors-série qui s'appelait dans la série Une vie, une œuvre sur Philippe Roth pour ses 80 ans. Et Rana Lévy, qui est éditeur chez Gallimard, a lu le hors-série. Il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer tout ce que vous avez écrit sur Philippe Roth dans Le Monde ? J'ai envoyé un gros paquet. Et il m'a convoqué, il m'a dit, mais le livre est là, maintenant il faut l'écrire, il faut la raconter cette histoire. On ne va pas publier vos articles ni vos entretiens, il faut raconter cette histoire étrange qui s'est construite entre Philippe Roth et vous. Et au début, j'ai dit, ah non, non, non. Et puis d'abord, je ne ferai rien s'il n'est pas d'accord. Il a été d'accord.
Ça a donné ça. Alors, un autre son évoque Roth et l'écriture de cet essai. Et on l'écoute. Quel lien avec Philippe Roth?
C'est un lien très, 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 très personnel. Pour le coup, j'avais une amie très chère qui est venue aux États-Unis avec moi une des années où je voyais Philippe Roth, puisque je les voyais tous les ans, et qui me disait, mais enfin, pourquoi tu n'écris pas un peu plus ces rencontres? C'était la première personne qui m'en a parlé. Et malheureusement, comme beaucoup de gens, elle avait un cancer et elle est morte de ce cancer. Et j'ai beaucoup pensé à cette chanson qu'elle aimait, enfin, ce morceau de Handel qu'elle aimait beaucoup, et je l'ai souvent écouté pendant que j'écrivais, comme une espèce de geste de mémoire. Voilà.
Manu Farine.
Josiane Savigno, le premier entretien avec Philippe Roth, c'est en 92, au moment de l'apparition de Patrimoine. Vous allez donc chez lui, un moment un petit peu délicat, il est odieux, il regarde sa montre, il trouve vos questions trop universitaires, prévient qu'il va vous balancer un trombone, finit évidemment par vous lancer un trombone, que vous allez garder d'ailleurs, mais trouve au final l'entretien excellent. Et vous, comment est-ce que vous le quittez ce jour-là?
Ah mais je le déteste quand je le quitte. Je le déteste. C'était grâce à Philippe Solers qui était ami avec lui que j'avais eu ce rendez-vous. Et donc, c'était avant l'ère du téléphone portable. Mais malgré tout, je me précipite chez mes amis, je décroche le téléphone et j'appelle à Paris et je dis, ce type, votre ami, mais c'est un type odieux, c'est un écrivain que j'admire profondément, je pense que je le lirai toujours, mais plus jamais je le rencontrerai. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça ? Et alors, 4 jours après, Solers me dit que c'était très étrange parce que son épouse, Julia Kristeva, qui était prof à Columbia à ce moment-là, a rencontré Philippe Roth qui a dit « Mais la fille du monde, elle avait lu mes livres, ça s'est très bien passé. » Comment ça s'est très bien passé ? Et la chose très drôle, et ça je pense que ça vous est arrivé à tous, c'est on vit quelque chose très mal et on écoute l'enregistrement, on écoute la bande. Et dans la bande, j'avais l'impression...
Il se passe vraiment quelque chose.
J'avais l'impression qu'on s'envoyait des vannes, quoi. Qu'il me disait, ça vous dérange que je joue avec un trombone? Et moi je disais, vous, ça vous dérange que je regarde vos mains? Le trombone, je vous l'enverrai à la figure à la fin de l'entretien. Je dis, good, I'm a fétichiste.
Et vous l'avez regardé plus tard, et d'ailleurs il a dit,
Vous êtes vraiment fétichiste. Mon Dieu, c'est une fétichiste.
Alors, dès qu'on me parle d'un écrivain narcissique, dites-vous, écrivez-vous, j'ai envie d'aller voir. Et vous ajoutez quelques pages plus loin, c'est au début du livre, « Je n'aime que les autobiographies personnelles, surtout celles qu'on accuse de narcissisme. En un seul livre, il est entré dans le panthéon de ceux que j'admire, les égotistes, les mégalomanes, les tout-puissants qui croient en la force de leur fiction. » Qu'est-ce que ça dit de la littérature qui vous anime,
Josiane Savigno? Il a dit quelque chose de très beau à propos de Kafka, mais il se l'applique à lui aussi, c'était imposer sa fiction à l'expérience. C'est-à-dire arriver à faire que... Et il l'a montré magnifiquement dans Opération Shylock, puisqu'il s'est inventé un double qui s'appelle Philip Roth et qu'il faut tuer d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut lui prouver que le roman est plus fort que lui. Je trouve ça assez magnifique. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Annie Ernaux, par exemple, mais j'étais assez choquée quand elle a dit que Les Années, c'était une autobiographie impersonnelle dans laquelle tout le monde pouvait se reconnaître. Mais moi, j'ai pas envie de me reconnaître, j'ai envie de découvrir l'autre, quelque chose de très différent. Bon, Philippe Prince, c'était évidemment une sorte de différence absolue, c'est un homme, je suis une femme, il est juif, je ne suis pas juive. Il me parlait de noir, que je ne savais même pas que ça existait. J'ai pensé dans un premier temps que c'était comme le comté de Faulkner, que c'était un lieu fictif. C'est après que j'ai compris que c'était un lieu fondateur pour lui, au contraire, et que c'était le lieu de son enfance, et qui est devenu comme une espèce de personnage aussi de son œuvre. Je veux dire, Newark est aussi important que Zuckerman.
David Vann, qu'est-ce que représente Philip Roth pour vous?
He's a great writer. He wasn't one of my
grand écrivain. Ce n'est pas une grande influence sur le plan stylistique pour moi. J'ai été influencé par d'autres écrivains contemporains. Grace Paley, par exemple. J'ai étudié auprès d'elle et j'ai été très influencé par ses nouvelles. Et bien souvent, je me remémore des conseils. Elle disait, dans chaque récit, il doit y avoir deux récits. Et un personnage bien inventé mérite la bonne destinée ouverte de la vie. Philip Roth, j'ai essayé de manière répétée d'être influencé par lui. Mais c'est extraordinaire, écrivain, certes, mais je ne peux pas exploiter cette influence. Il ne me parle pas à moi directement.
Manu Farine.
Josiane Savigno, on connaît vos positions. Vous avez été nourrie à Simone de Beauvoir, avez été biographe de Marguerite Yourcenar. Comment est-ce que votre féminisme s'est accordé de la misogynie supposée? Non. De Philip Roth.
D'abord parce que c'est une misogynie très exagérée, je pense, et que il est combattu par un certain type de féministes qui, comme souvent d'ailleurs, quand on veut accuser quelqu'un de misogynie, on cherche dans son œuvre que les personnages de femmes négatifs. Or, il y a des personnages de femmes très très beaux, comme Fonia dans La Tâche, par exemple, et d'autres aussi. Et je crois que c'est vraiment un cliché, la misogynie de Philip Roth. Ce qui ne serait pas un cliché, à mon avis, c'est de parler de misanthropie, parce qu'en effet, les hommes ne sont pas bien traités non plus dans son œuvre. Ils sont pas, il n'y a pas vraiment de mâles glorieux, magnifiques, flamboyants. Ce sont plutôt des... Mais pour revenir sur ce que disait David Vann, je comprends très bien qu'il ait été plus influencé par Grace Paley, pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi. Et je pense que, justement, tout à l'heure, on parlait de Jonathan Franzen, de ces gens qui sont un peu gonflés artificiellement, y compris par les Français, qui ont une espèce de mentalité de coloniser, c'est-à-dire les Américains en font un plat, alors on va faire la même chose. Et Grace Paley, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu en France et qui a été vraiment une très très grande nouvelliste, pour moi quelqu'un de très important, et je suis contente que David Vann l'admire.
On avait reçu ici, il y a peu de temps d'ailleurs, cette traductrice. Il y a une question centrale dans l'œuvre de Roth qui, dites-vous, vous concerne. C'est ce qu'il écrit sous la plume d'un de ses avatars. Voici ce qu'il écrit. La fiction n'est pas autobiographique et pourtant toute fiction s'ancre de quelque façon dans l'autobiographie. Encore que les liens avec les faits réels puissent être des plus ténus, voire même inexistants. Vous aviez souligné ce passage. En quoi il vous concerne, vous, et dans votre rapport à la littérature, de ce que vous y trouvez?
Dans mon rapport à la littérature, en effet. Mais vous savez, Marguerite Yourcenar aussi, qui n'est jamais arrivé au XXe siècle, comme dit un de mes amis, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque Denier du rêve se passe au XXe siècle, et d'autres livres aussi. Mais elle disait, quand on lui posait cette question, aucun de mes livres n'est autobiographique et tous le sont. Et je crois que ce que dit Roth est très important, c'est-à-dire que cette idée que, en effet, comme il le dit souvent, on ne peut plus vraiment lire de la fiction, c'est-à-dire qu'on cherche... Si le livre est un document, s'il donne des clés sur la vie, le petit détail, etc. Et le fait de dire que l'autobiographie existe, mais qu'elle n'est pas, comment dire, qu'elle ne tue pas la fiction, ça me paraît quelque chose de très intéressant et de très important.
À nous.
Cet essai revient donc à la fois, Josiane Savigno, sur, évidemment, sur Philippe Ross, sa littérature, son enfance, son Amérique, ses positions politiques aussi, sa judéité, l'état de la littérature, l'état du roman, du lecteur aussi, mais évoque de fait aussi vous, lectrice de Ross, et vous, dans l'exercice de votre métier. Qu'est-ce que ces entretiens disent justement de vous, c'est-à-dire de la critique littéraire que vous êtes, de la façon que vous avez d'envisager votre métier ?
Ben alors, je ne sais pas si c'est plutôt vous qui devriez le dire que moi. J'ai toujours, vous savez, Jacqueline Piatier, qui a créé le monde des livres en 1967, et auquel je tiens à rendre hommage parce que c'était une femme passionnée. T'as. Jacqueline Piatier disait, et j'ai beaucoup adhéré à ça, qu'elle était pour une critique de l'accueil, plutôt que pour une critique de la détestation ou, de la, ou du rejet. Et c'est vrai, par rapport à ce que vous dites sur la misogynie ou sur, sur tout ce qu'on disait de la détestation des journalistes, c'est vrai qu'ils ne les aiment pas beaucoup. Je pense que j'avais plutôt envie d'aller voir et d'essayer d'accueillir, de comprendre, plutôt que de me réfugier dans des stéréotypes.
Qu'est-ce qui est arrivé à Ross, maintenant que vous le connaissez bien, pour qu'il annonce aussi frontalement qu'il arrêtait d'écrire ? De la fiction.
Oui, enfin, je crois qu'il a dit qu'il a arrêté d'écrire.
Tout court, oui.
Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Et il l'a dit à Nelly Capriolian pour les
Arts Occupibles.
Elle l'a cru. Et elle l'a publié en disant qu'elle le croyait. Et un journaliste américain est tombé sur son article. Et évidemment, c'est devenu
une affaire d'État.
Une affaire d'État. Et lui dit, mais je n'avais pas l'intention de sonner la trompette pour dire que j'avais arrêté d'écrire. Simplement, elle m'a dit, sur quoi vous travaillez ? Et j'ai dit, mais sur rien, je n'écris plus depuis Némésis, je n'ai plus écrit.
Et ce n'est pas faux.
Je voudrais que ce soit faux.
Mais ça ne l'est pas.
Vous savez, quand même, récemment, il a écrit un très joli petit texte. Et il y a une vente aux enchères aux États-Unis d'éditions originales de livres importants de la littérature américaine, dont Portnoy et son complexe. Et il a écrit, ça a été publié dans le New York Times, un petit essai. Pas très grand, mais sur sa relecture de Portnoy et ce que ça lui apporte, etc. Et je lui ai envoyé un mail en disant « Vous allez détester ce que je vais vous dire, mais j'aime vraiment quand vous écrivez. »
Et il continue à écrire presque des commentaires. Il écrit même pour son biographe, Manu Farine. Puisque la question de la biographie est vraiment centrale. D'abord, dans votre propre travail, vous avez été la biographe de Marguerite Yourcenar, de
Carson
McCullers. Vous avez écrit des textes sur Benoît de Groult, sur Jeannette Gréco. Mais ici, avec Roth, vous biaisé d'une certaine façon, puisque c'est plutôt donc le récit de la relation que vous avez eue avec lui. Mais la biographie, chez lui, c'est assez important, puisqu'aujourd'hui, il est en relation avec un biographe et il écrit pour lui. De quel ordre est leur relation, véritablement ?
C'est très cool. Il dit « je travaille pour lui ». Maintenant, mon seul travail d'écriture, c'est ça, c'est du travail, comme il dit, un peu comme un médecin légiste. C'est-à-dire, je travaille pour expliquer, quand il retrouve des documents, il fait une petite note à côté pour expliquer ce que ça signifie. Je ne sais pas si c'est pour tenir la main du biographe, je ne sais pas. En tout cas, il avait déjà eu un premier biographe qui était le neveu de Arthur Miller. Et puis, ça s'est dissous. Je n'ai pas trop cherché à savoir quand même comment ça s'était passé. Je n'ai pas appelé Ross Miller pour savoir. Et peut-être l'autre biographe, enfin le vrai biographe. Moi, ce n'est pas une biographie, c'est plutôt un exercice d'admiration, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je crois que... En effet, donc, le biographe Blake Bailey qui lui a proposé de faire sa biographie. Et d'abord, il lui a dit « Mais comment un type de Virginie peut s'intéresser à moi ?» Et il lui a dit « Écoutez, je me suis intéressée déjà à un homosexuel alcoolique. Je ne suis pas ni homosexuel ni alcoolique.
» Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son, Josiane Savigno, et voici ce que vous avez choisi.
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de craintes et de mythes, l'impuissance des responsables submergé par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire. limité et expéditif. Mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie.
Qu'est-ce que vous vouliez véritablement entendre dans cette prise de parole, ouais. Josiane Savigno ?
D'abord, c'est un grand acteur, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est parce que je pense que c'est mon premier vrai grand souvenir politique. Mon père était un lecteur de journaux assidu et un écouteur de radio assidu aussi. Mmh. Je ne sais pas si c'est ce moment-là qui a ancré mon idée, mon désir de devenir journaliste, mais dont la guerre d'Algérie était quelque chose qui préoccupait beaucoup mon père. Donc il fallait écouter religieusement et on a écouté religieusement ça. Et en plus, moi, je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, Carteron.
Carteron, c'est ça.
Il y avait des tas de mots que je ne connaissais pas. J'ai dû me faire donner une explication de texte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours frappée. Et la voix de De Gaulle, je suis très sensible aux voix. J'aime beaucoup les voix. On parlait de la voix de Philippe Roth tout à l'heure. Et cette voix de grand acteur, en fait, c'est assez magnifique, m'a toujours beaucoup plu, et singulièrement cette histoire du Carteron de généraux en retraite est mon premier vrai grand souvenir politique. Au fond, cet homme a tué pour se suicider. C'était son ultime suicide.
Les armes à feu n'apportent aucune sécurité. Et l'armée américaine ne donne aucune sécurité au reste du monde.
Merci à nos invités. David Vann, Dernier jour sur Terre et Goat Mountain ont paru aux éditions Gallmeister. Et je signale qu'un roman graphique adapté de Second Island a paru aux éditions De Noël Graphique. Josiane Savigno avec Philippe Ross, c'est aux éditions Gallimard. Et Point de Côté est disponible chez Folio. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, il faudra attendre lundi et on va en bouffer avec Boris Charmatz et le saxophoniste Guillaume Perret. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssetou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagan. À la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan et Jacques Azubert. À la réalisation, Thomas Beau. Et à l'interprétation, Xavier Combes.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien.